Je commence cette émission par un hommage collectif, mais aussi personnel. Nous avons appris mardi la disparition soudaine, inattendue, de David Kessler, ancien directeur de France Culture. Ce n'est pas le lieu ici de raconter l'homme et sa générosité, sa complexité aussi. Cet étrange enchevêtrement de traits, de caractère et d'attitude avec les autres qui font la vie d'un être, être qui a profondément marqué cette chaîne France Culture et la plupart de ceux qui la font aujourd'hui. Chacun de nous rendra hommage à l'homme, à sa façon ou intimement dans son cœur, et cela doit d'une certaine manière rester privé. Ce que l'on peut faire en revanche à l'antenne dans cette émission, c'est revenir sur le parcours public de David Kessler et ce qui fut finalement son œuvre. Ce n'était pas un journaliste, ni même véritablement un intellectuel. Il n'a pas ou peu écrit, même s'il en a eu le désir. Il n'a pas fait de la radio, ni du cinéma, ni de la télévision. Il a toujours été de l'autre côté des écrans, celui qui permet au contenu culturel et audiovisuel d'exister et de faire en sorte qu'il soit les moins mauvais possibles. Normalien, agrégé de philosophie, énarque, il fut un juriste engagé au Conseil d'État et on a pu oublier qu'il s'était opposé, par exemple, à l'époque, comme commissaire du gouvernement, à une laïcité trop rigide et à l'interdiction du foulard à l'école. Pour lui, la laïcité n'interdit pas l'expression des différences. Au contraire, elle les tolère toutes. Pour comprendre ses idées, il faut rappeler que David Kessler était une figure active du judaïsme libéral français. Un professeur de philosophie qui toujours tentait de défendre une exigence du discours et une exigence de l'argumentation, toujours, toujours la tolérance. Comme conseiller culturel et communication du Premier ministre Lionel Jospin à Matignon, comme conseiller culturel du maire de Paris Bertrand Delanoë, puis conseiller culture du président de la République François Hollande, David Kessler a enchaîné les postes politico-culturels à gauche, sans affectation ni sectarisme, grand serviteur de l'État qui se méfie des égaux et des divas, fort nombreux, il est vrai, dans ce petit monde de la culture et de l'audiovisuel parisien. De là, un humour à la Saint-Simon, une ironie aussi à la House of Cards. Je crois que David Kessler n'était pas dupe. Il détestait les rapports de force et il savait mieux que quiconque le poids de la comédie, l'ampleur de la vanité, les jeux incertains des nominations et des décorations dans ce microcosme artistico-communicant parisien. Alors, il en riait. Si on tente de tracer une ligne pour expliquer sa pensée, on peut dire que David Kessler incarnait le modèle culturel français dans son idéalisme. Le cinéma américain devait financer la création française, la télévision finançait le cinéma, la France menait un combat pour la diversité. C'était sa mission. Et pourtant, Kessler avait compris avant les autres que ce modèle avait atteint ses limites, que notre village audiovisuel gaulois risquait de s'isoler, que la transition numérique imposait aussi une transition de notre politique culturelle. L'autre idée centrale que je retiens de David Kessler, c'est le refus de toute séparation étanche, stricte, entre le secteur public et le secteur privé. Après avoir dirigé le Centre national du cinéma, voire dirigé France 2 ou le CSA, il est parti dans le privé, aux Inrocks, au Huffington Post ou chez l'opérateur Orange, non pas pour pantoufler comme tant d'énarques, mais pour tenter de comprendre l'évolution des industries culturelles du côté des acteurs privés. De là, une pensée fluide et assez peu figée sur l'économie créative, le contraire même de bien des professionnels du secteur qui ne se remettent jamais en question. David Kessler le faisait peut-être trop. Tous les 3-4 ans, il changeait de poste, il changeait de vie. Cette succession de carrières, cette boulimie professionnelle cachait sans doute des lassitudes et des failles. Il a peut-être empêché de transformer en profondeur les entreprises publiques comme privées qu'il a dirigées. C'est qu'il pensait au temps long, aux fondations du système culturel français, plus qu'à ses épiphénomènes. Dans son exposition incontournable « Faire son temps » actuellement au Centre Pompidou, l'artiste Christian Boltanski évoque le petit trait qui sépare les dates de naissance et de mort d'un homme. 1959-2020 par exemple, pour David Kessler. Ce petit trait entre ces deux dates, ce fut la vie de Kessler. Si longue et si courte, multiple aussi jusque dans les affections et les abîmes, imparfaite sans doute, mais qui représente également une œuvre à sa façon. Celle qui demeure dans le souvenir de ses étudiants, de ses collaborateurs, des élus ou des professionnels de la culture et de la communication, si nombreux à le regretter aujourd'hui. Et qui savent qu'il était du côté du bien. Un mot personnel pour finir. C'est David Kessler qui, à la tête de France Culture, avait voulu dédier une émission aux industries culturelles, aux médias, au numérique. Masse Critique devenue Soft Power, que j'anime depuis presque 15 ans. Soft Power est donc aussi l'un de ses héritages, une partie de son œuvre en quelque sorte. Au nom de France Culture et de toutes ses équipes, nous voulions rendre hommage ce soir à David Kessler, dont les funérailles auront lieu mardi à 15h au cimetière du Montparnasse à Paris. David Kessler au micro de Jean Lebrun en janvier 2006 à propos de France Culture en réponse aux questions d'auditeurs en public, une archive INA.
Dans ce qui a été dit, ça demanderait des heures, alors je vais être très bref. Au-delà des remarques, ce que j'entends dans ce que dit monsieur et qui me paraît effectivement, c'est surprenez-nous, c'est-à-dire ne tombez pas dans effectivement ce qu'on entend d'habitude et partout. Et donc ça, je crois que c'est une exigence tout à fait légitime des auditeurs. Après que on fasse intervenir sur l'antenne des gens qui viennent d'ailleurs, alors vous dites plutôt Charlie Hebdo que Le Monde, on pourrait trouver d'autres choses d'ailleurs. Mais en tout cas, surprenez-nous et ça me paraît important. De façon générale, et très rapidement, je dirais que je crois qu'on doit avoir deux préoccupations. La première, c'est que nos émissions soient repérables. C'est-à-dire que les auditeurs puissent savoir à un moment donné ce qu'il y a sur l'antenne. Madame dit, faites-nous de la fiction radiophonique et des pièces radiophoniques. Nous en avons, donc ça veut dire qu'elles sont peut-être pas suffisamment repérables. Puis la deuxième chose, il faut que France Culture reste absolument un espace de débat, c'est-à-dire un espace pluriel. Et ça, c'est un point essentiel. Je crois qu'il y a une grande diversité. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Après tout, je suis arrivé assez récemment, donc je découvre aussi la radio et je découvre d'ailleurs les visages derrière les voix que j'entendais. Et ce qui me frappe, c'est la grande diversité des gens qui font la radio. Ça, c'est une réalité. Mais il faut aussi qu'il y ait une diversité des thèmes étudiés et une pluralité des approches. Alors, toutes ces exigences-là, il faut les faire tenir dans une grille qui est très compacte. C'est-à-dire, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça peut paraître énorme, mais on s'aperçoit assez vite que c'est peu quand on a des nouveaux projets. On se dit, mais où les mettre ? Et donc, une radio, ça doit être à la fois une grande stabilité et en même temps un souci perpétuel de changement.